France Inter. Pierre Veille. Le téléphone sonne.
Le téléphone sonne, c'est votre émission, vos appels, vos questions, vos témoignages. Ce soir, jusqu'à 20h, l'exode urbain. À la faveur du confinement, vous êtes nombreux à avoir décidé de vivre au vert, de changer de vie, une façon de reconsidérer le sens de ce que l'on fait. L'envie de campagne, de verdure, de nature, conséquence de la crise du Covid-19 et bien sûr une ruée sur les marchés, sur le marché des maisons individuelles, un grand pré, une grande forêt au lieu de voir un bout de rue, plus d'espace, un potager, moins de bruit et de pollution. C'est devenu l'objectif de citadins, ils tentent une nouvelle existence. Gros plan sur ce phénomène, n'hésitez pas à témoigner si vous avez décidé ce changement de vie. Racontez-nous ce cheminement vers la campagne, dites-nous s'il vous comble ou au contraire, si vous avez rencontré des difficultés d'adaptation.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Nos invités pour commenter vos réactions, vos témoignages, pour vous répondre, ils sont en ligne avec nous. Magali Talandier, elle est professeure d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'Université de Grenoble. Bonsoir.
Bonsoir.
La ligne fonctionne parfaitement. Et puis Éric Charme. Éric Charme, il est chercheur en sciences sociales appliquées à l'urbain, directeur du laboratoire de recherche interdisciplinaire Ville, Espace, Société. Bienvenue. Vous êtes là, monsieur Charme.
Bonsoir.
Voilà. C'est parfait. On va directement au standard du téléphone sonne avec un appel d'André dans le Cantal. Bonsoir, André.
Oui, c'est Andrés, en fait.
Andrés, pardon, excusez-moi.
Voilà, voilà, comme Ursula. Oui, dans le Cantal, eh bien, justement, une zone très, très privilégiée par son désenclavement historique, entre guillemets. Mais voilà, moi, ma réflexion, c'est bien que tous ces gens réalisent qu'en fait, la nature est essentielle à notre vie et nous en sommes partie intégrante. Ce retour implique des choix de vie pour ces personnes et je ne sais pas s'ils prennent bien la mesure de ce qu'implique de vivre dans des zones écartées. Une première idée qui me vient, c'est que ce sera les zones périphériques des grandes villes, comme chez nous, Clermont-Ferrand, à 20-30 kilomètres, Aurillac, pareil. Et là effectivement, l'immobilier flambe de manière indécente même. Chez nous, dans plus reculé, encore plus au fond, on a du vrai bâti, de la pierre, des maisons qui ont 300-400 ans d'existence. Et voilà. Alors les gens, c'est pas la même catégorie de gens qui viendront faire ces choix de vie. Ce dont j'ai peur, pour caricaturer, je le vois sur notre commune d'à côté, des néo-ruraux pourraient vouloir la mort du coq qui chante le matin, voire arrêter le clocher qui donne les heures. Il faut bien qu'il y ait une approche intelligente de la part des élus locaux, de la part des offres qui seront faites par ces élus,
Andrés,
pour sauver nos écoles.
Andrés, je sens une inquiétude chez vous. Est-ce que vous avez déjà constaté des comportements de citadins qui se sont installés là, près de chez vous, dans le Cantal, et qui ont des comportements qui ne sont pas adaptés à ces paysages, à cette nature?
Je pense que si. Pour le Cantal, je ne sais pas si jeter la canette de bière ou jeter par la fenêtre ou on est avec un sac, ce genre d'incivilité est faite même par chez nous. Chez oui. nous, on trouve encore des canettes de bière récentes, pas des vieilles. Oui. Alors la caricature, dire que c'est le chasseur, non, c'est aussi des jeunes. Je ne pense pas que ce soit là. Je pense que la contrainte, elle risque d'être sur le flux de choses qui seront... Ça sera trop rapide pour certaines communes. Nous, ici, on a à côté de chez nous un projet d'éco-quartier. Bon, l'élu qui arrive sur Champagne, dans le Cantal, a décidé d'arrêter ça. Bon, c'est des luttes, ça, c'est les municipales. Mais voilà, c'est ce genre d'idée novatrice
merci.
Qui permettrait peut-être de donner de la vité à ces zones dites, entre guillemets, mourantes.
Merci, Andrés, d'avoir témoigné sur ce que vient de nous dire Andrés. Magali Talandier, un commentaire?
Oui, tout à fait. Donc on a alors plusieurs remarques de notre auditeur étaient intéressantes. Déjà dans la catégorisation qu'il fait entre les migrations qui se font vers des espaces, disons plutôt périurbains, et celles qui se font vers des espaces ruraux isolés, en disant ce ne sont pas vraiment les mêmes personnes et les mêmes aspirations. Donc ça, c'est tout à fait juste, parce que c'est en effet des choses que l'on peut mesurer, hein, statistiquement, et montrer qu'on n'a en effet pas tout à fait le même profil de population dans ces choix de vie qui sont quand même très différents, entre s'éloigner de la ville, mais continuer à être connecté à la ville, ne serait-ce que parce que notre emploi est situé en ville, et donc on est dans ces logiques périurbaines, et puis faire le choix d'un mode de vie complètement radical, très différent évidemment, en décidant d'aller construire une nouvelle vie dans ces espaces ruraux. Donc ça, c'est ces deux catégories existent. Et sur la peur qui ressort un petit peu, l'inquiétude, comme vous avez dit, du témoignage, il y a plein évidemment d'histoires, d'anecdotes, hein, le chant du coq est un des classiques, mais c'est vrai que ça a donné lieu dans le passé à certaines incompréhensions de la part des uns et des autres, parce que on arrive avec pas forcément la même histoire et puis la même culture commune. Mais au-delà de ce point-là, c'est vrai que moi, ce que j'ai ressenti à la lecture de tous les articles qui ont été publiés suite, en effet, à cet éloignement, notamment de Paris, hein, des urbains pendant le confinement, de dire voilà l'exode urbain. C'est vrai que ma première réaction a été de dire que bon, il était déjà sans doute trop tôt et un peu excessif de parler d'exode urbain. Mais surtout, j'étais assez étonnée que tous les articles écrits étaient extrêmement positifs, comme si cette vague potentielle d'immigration, d'exode urbain, donc ce départ des villes, ce déménagement des villes vers les campagnes, comme si c'était forcément quelque chose de positif. Moi, je pense que là, il faut en effet être très prudent. C'est difficile pour des espaces fragiles, si ça devait se réaliser, ça serait difficile pour des espaces fragiles d'être en capacité d'accueil, justement, de flux migratoires qui seraient importants. Et puis, n'oublions pas l'autre revers de la médaille, parce que les deux sont complètement connectés, c'est l'impact pour les villes, si les populations, qui sont quand même des populations plutôt privilégiées, se disaient du jour au lendemain, tiens, nous allons quitter la ville. Parce qu'il y a une forme de solidarité qui existe aussi dans les villes qui, du coup, serait extrêmement perturbée par de telles migrations.
Et là, ce courriel sur le site de l'émission, ça rejoint un peu ce que disait André, c'est Gilles à Évreux, il nous écrit « Ne faut-il pas craindre une installation difficile des citadins à la campagne et même des conflits avec le voisinage là-bas parce que les citadins veulent souvent retrouver les caractéristiques de la ville à la campagne. » Éric Charme, je rappelle, chercheur en sciences sociales appliquées à l'urbain et directeur du laboratoire de recherche interdisciplinaire « Ville, espace, société ».
Oui, effectivement, Andrés a bien souligné qu'il y avait campagne et campagne. Il y en a plusieurs sortes. Les campagnes françaises sont extrêmement vastes. On peut parler d'ailleurs des campagnes touristiques qui accueillent beaucoup, notamment de résidents secondaires. Et on a vu les migrations, effectivement, au moment du confinement, des Parisiens plutôt aisés vers leurs résidences secondaires, hein, en bord de mer, par exemple. Il y a des campagnes plutôt isolées. Et parfois, c'est assez difficile d'y capter Internet. Et puis, il y a des campagnes qui sont très urbaines, en fait. Hein. Et je crois que c'est dans l'échange qu'on commence à avoir, il faut faire attention à l'opposition qu'on peut faire entre les habitants des villes et les habitants des campagnes. Mmh. Aujourd'hui, on peut très bien habiter un village autour de Paris, dans les Yvelines, en Essonne, en Seine-et-Marne, avoir une vie tout à fait métropolitaine, parce que on est très proche de Paris, on peut y accéder assez facilement et assez rapidement, et on peut notamment y travailler. Les enfants peuvent y faire des études, et on peut habiter des villes petites ou moyennes, dans des départements assez ruraux, comme le Cantal, et avoir une expérience qui est beaucoup plus proche de celle que peuvent avoir, disons, des habitants de campagne isolés que ceux d'une grande ville. Les frontières sont assez brouillées aujourd'hui.
Elisabeth nous écoute à Nantes. Bonsoir Elisabeth, bienvenue sur l'antenne de France Inter.
Merci et bonsoir à vous et à vos invités. J'ai pas grand chose à rajouter en fait par rapport à ce que Andrés a dit, mais il y a eu l'exode rural du désert français au siècle dernier, qui a fait en sorte que, notamment Paris, hein, a dû grandir, et puis la première couronne, la deuxième couronne, la troisième couronne, et tout ça, qui a fait que Paris est devenu un peu inhabitable ou invivable. Et nous, enfin moi, j'habite Nantes. On a vécu l'exode des Parisiens vers notre ville. Oui. Et du coup, on n'arrive plus à se loger. Les prix sont devenus mais complètement dingues, y compris en première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Les communes ont préempté des terrains agricoles, parce que c'est censé être très agricole quand même, hein, autour de nous, et pour construire des lotissements, des immeubles. Donc on se retrouve pas du tout dans notre espace vécu qu'on avait avant. Et en plus, sociologiquement, les gens qui arrivent ne connaissent absolument rien à l'histoire de notre ville, qui est une histoire forte, et où il y avait des classes sociales qui se mélangeaient, mais qui étaient extrêmement différentes, et qui faisaient notre fierté, et qui faisaient vraiment, ça, c'était notre force, c'était notre culture, notre société.
Oui.
Là, aujourd'hui, aujourd'hui, on est en train de devenir parisien ou bordelais. Hein. Bon, bref. Et donc, ça nous manque à nous. Mais je n'arrête pas là. Du coup, les Nantais, il y en a beaucoup qui veulent aller dans les campagnes. Donc, l'exode s'en va. Les campagnes, je suppose que du coup, le prix de l'immobilier va énormément augmenter. Que petits villages vont être bitumés pour des lotissements, pour des immeubles, parce qu'il faut des enfants pour réouvrir l'école, parce qu'il faut des habitants pour réouvrir le bar, tabac, presse, PMU. Et il faut vraiment espérer que les maires sachent mettre une limite, vraiment. Parce que moi, j'adore aller en campagne pendant mes vacances et dans un camping municipal, entre guillemets, à 2 euros la nuit ou 1,50 euros avec une pente à 20 degrés, mais où il n'y a personne et où on n'est que 8 à aller à la cascade, où maintenant on va être 110.
Elisabeth, une question, ce phénomène d'arrivée des Parisiens, ça a commencé quand? Là, on ne parle pas de la période de confinement, ça a commencé avant ou vraiment ça a pris?
Ça a commencé bien avant, a commencé dès 2000 en fait. Hein.
Ouais.
Et ça a complètement transfiguré la ville. On n'a plus d'espace, on n'a plus les friches industrielles qui rappelaient le passé naval de Nantes, hein. C'est quand même les chantiers navals, hein. Enfin, c'était un peu énorme.
Mais cela dit, Elisabeth, vous dites, ceux qui arrivent ne connaissent pas l'histoire de notre ville, notre personnalité, ça peut s'apprendre. Hein. Quand on vit dans une ville, on la découvre, on l'aime et on veut bien la connaître et connaître son histoire.
Vous pensez que cette banlieue parisienne avait envie de connaître l'histoire de Paris? J'en suis pas sûre. Et donc, non, à Nantes, il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à notre culture et qui, de toute façon, auront du mal à s'y adapter parce qu'on est une grande ville. Et comment vous pensez ouvrier? Comment vous pensez descendant de négrier? C'est compliqué, et c'est ça qui faisait la richesse de notre ville et qu'on se reconnaissait tous. Et les bourgades qui vont accueillir un lotissement ou des immeubles, comment les gens vont avoir envie de s'intéresser non seulement à la bourgade, mais au pays, au petit pays de
merci.
La bourgade.
Merci Elisabeth d'avoir. Merci d'avoir témoigné ce soir, pas tellement de questions, mais plutôt des témoignages. Une réaction, Magali Talandier, professeure d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'Université de Grenoble.
Oui, c'est intéressant. On voit que ça fait naître des sentiments passionnés. Bon, je pense qu'il faut quand même raison garder, c'est-à-dire que l'histoire de nos villes est une histoire aussi de flux migratoires et elles ont aussi fait la richesse des villes et des campagnes. Alors, c'est vrai que on a eu pendant très longtemps, évidemment, ça a duré plus d'un siècle, cette image d'un exode rural. Un exode rural où quand même, je voudrais juste rappeler que ces mouvements des campagnes vers les villes, c'est quand même fait aussi beaucoup au profit de villes moyennes, et pas uniquement que de Paris. Donc il y a vraiment eu un grand déménagement des campagnes vers les villes, mais des villes de toute taille et dans toutes les régions. Donc ça a été vraiment un phénomène urbain général et pas que parisien. Et aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il y ait d'exode urbain. Je pense que c'est un terme qui est un peu excessif, mais donc ces mouvements restent des villes vers les espaces ruraux. Reste finalement assez modéré et dans une forme qui est plutôt pour l'instant avantageuse, dans le sens où les villes, c'est à peu près 55 000 personnes qui chaque année quittent un pôle urbain de taille plutôt grande vers pour s'installer dans une commune rurale. Donc ce n'est pas beaucoup, si vous voulez, du côté de la perte des villes. Donc ça ne me remet pas en cause certains équilibres, notamment, je disais, des équilibres de solidarité des ménages les plus aisés vers des ménages moins riches au sein des villes. Donc cette migration-là ne remet pas en cause l'équilibre urbain. Mais par contre, dans certaines campagnes, ça permet d'avoir, de retrouver une certaine dynamique, c'est-à-dire de maintenir aussi une forme de service aux personnes, de maintenir l'ouverture des écoles. Donc, pour l'instant, alors, ça ne profite pas à toutes les campagnes non plus. Il faut aussi faire attention, parce que c'est vrai que là, on avait le cas de Nantes, qui est un territoire extrêmement dynamique et attractif, où une pression, évidemment, immobilière se fait sentir. On a évoqué Bordeaux avec le phénomène du TGV, cette forte attractivité migratoire récente. Mais les processus vers certaines campagnes peuvent paraître très saturés, mais vers d'autres, pour le coup, ils le sont pas du tout. Et ce que je voulais dire, ce que faisait ressortir le témoignage de cette dame aussi, c'était que l'essentiel, quand même, des migrations, ce sont des migrations entre villes. Donc là, on voit bien qu'il y a en effet eu une très forte attractivité de Nantes auprès de populations qui travaillent, en âge de travailler, venues de Paris ou d'ailleurs. Mais la plus grande part des migrations se fait d'abord entre des pôles urbains.
Alors, courriel d'Anna Bordeaux nous demande quels sont les arguments de ceux qui ont décidé de partir à la campagne pour construire une nouvelle vie. Cette campagne, ils ont pu la découvrir lors de ce confinement. Ils se sont rendus compte que la vie dans les villes est devenue trop stressante. Quels sont les arguments ? C'est un logement moins cher ou alors vraiment un besoin de redécouvrir la nature ? Éric Charme.
Il y a de très nombreux arguments. Effectivement, les prix des logements et les loyers sont moins élevés lorsqu'on s'éloigne des grandes métropoles, quoique c'est pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de grandes villes où les prix sont plus bas au centre que pour les maisons en périphérie. Il y en a un certain nombre en France où c'est le cas. Maintenant, les gens aussi sont attirés par le fait d'habiter dans les campagnes. Donc c'est pas simplement le logement moins cher qui les attire, c'est aussi un cadre de vie, de l'espace, la possibilité de faire un certain nombre de loisirs qu'on peut plus difficilement faire en ville, des formes de calme, aussi des formes de sociabilité, c'est-à-dire quand vous habitez un village, vous connaissez au moins de vue la plupart des gens que vous croisez dans la rue, il y a moins d'anonymat, donc ça peut être plus chaleureux. Cela étant, c'est assez important, et dans la continuité de ce qui vient d'être dit, de souligner que les campagnes aujourd'hui qui attirent le plus de personnes sont des campagnes qui, pour l'essentiel, sont proches des grandes villes. C'est ce qu'on appelle le périurbain, en fait, ou que, d'une manière un peu plus élégante, on appelle les campagnes urbaines. C'est-à-dire que beaucoup de ménages quittent les villes, mais ils en restent assez proches, finalement. C'est-à-dire qu'ils vont dans les campagnes proches des villes, ce qui leur permet de continuer à garder leur emploi, par exemple. C'est-à-dire, vous habitez Lyon et vous installez dans le Cantal, c'est difficile de continuer à travailler à Lyon. En revanche, si vous installez un peu à l'ouest, dans les monts du Lyonnais, vous pouvez faire la navette. Alors, bien souvent, ce qui pose un certain nombre de questions, cette navette se fait en voiture. Mais voilà, ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que c'est là où parler d'exode urbain, c'est compliqué. D'une certaine manière, oui, on peut dire qu'il y a une dynamique assez forte de ménages et qui quittent les villes pour s'installer dans des campagnes, mais ils s'installent dans des campagnes proches des villes, donc ils restent des urbains. Et d'une certaine manière, leur mode de vie n'est pas entièrement différent de celui des villes qu'ils ont quittées.
Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui évoquent le télétravail. Je résume tous les courriels que nous avons reçus à ce propos. Avec le télétravail, n'a-t-on pas réalisé finalement le rêve de beaucoup de gens, produire, travailler là où on rêve de vivre, loin de la ville, dans la campagne. Sur cette importance du télétravail qu'on a vu se développer durant ce confinement, Magali Talandier.
Donc le télétravail, bon, il faudra quand même attendre un petit peu pour savoir à quel point nous allons transformer notre façon de travailler suite évidemment à cette pandémie, le temps que cela durera, etc. Mais imaginons là encore que nous changions nos habitudes et que ces formes de télétravail prennent vraiment un tournant décisif dans notre façon de travailler et donc d'habiter. Parce qu'en effet, ça veut dire qu'il va falloir aussi des logements dans lesquels on va pouvoir dédier un espace suffisamment au calme, parce qu'on l'a tous vécu quand même avec nos enfants et travailler dans la salle à manger, etc. Donc non, il va nous falloir des espaces plus grands. Donc oui, il y a certains urbanistes, en effet, qui se disent que ça va accélérer ce besoin d'espaces plus grands et cette capacité à pouvoir habiter plus loin de la ville-centre et peut-être justement dans des espaces périurbains, comme disait Eric Charme. Bon, mais attendons. Et puis, moi encore, je voudrais quand même que l'on s'interroge sur les conséquences sociales. Parce que quand l'on regarde qui peut télétravailler, quelles sont les professions qui peuvent avoir accès au télétravail. Moi, je me suis amusée à regarder ça. On a à peu près, bon, 30%, tous les chiffres sont à peu près convergents, 30% d'actifs maximum qui sont possiblement partiellement en télétravail, hein, pas forcément à 100%. Et très clairement, ressort des catégories socio-professionnelles, de cadres, de professions supérieures, des métiers, voilà, où l'on va pouvoir en effet travailler à distance et pas du tout tout le champ industriel, ouvrier, les services à la personne, l'enseignement. Bon, donc ça va créer aussi, ça va renforcer des sentiments qui étaient quand même déjà là avant la pandémie, de fracture quelque part. J'aime pas trop ce terme, mais vous voyez, de sentiments de ceux qui pourront avoir le choix de ces vies qui font un peu rêver, voilà, et ceux qui seront confrontés à un quotidien qui reste un quotidien parfois d'une heure et demie de transport, etc. Donc là encore, on se dit bonne nouvelle, on va pouvoir tous faire du télétravail, mais bonne nouvelle pour qui? Et attention aux conséquences sociales, quoi.
Hélène à Paris est avec nous, elle patiente depuis un quart d'heure, pardon Hélène, bienvenue, c'est à vous maintenant.
Je patiente tranquillement, ne vous inquiétez pas.
Allez-y. Et
donc bonsoir à tous. Écoutez, moi je veux dire que les citadins qui veulent aller à la campagne, parce qu'il n'y a pas que les Parisiens, il y a aussi les grandes villes de France, c'est très bien, mais s'ils veulent vraiment aller à la campagne, ils n'ont qu'à acheter des maisons inhabitées en centre-village, parce que sinon j'imagine très bien, et je déteste ça, l'implantation de lotissements avec des maisons toutes pareilles, le jardinet, des demi-maisons même souvent. Pour ces maisons, pour ces lotissements, il faut des routes, des trottoirs, de l'éclairage. Donc pour l'éclairage, c'est une pollution visuelle pour les pauvres oiseaux. Et quant aux routes et trottoirs et autres moyens d'accès, c'est une fois de plus bétonner des terres agricoles dont on a besoin. Et moi, je préférerais 100 000 fois qu'on rétablisse au contraire des maraîchers autour des grandes villes pour justement les locavores et la production locale.
Oui.
Voilà. Et puis quand on voit en plus, ça c'est une anecdote, mais quand même, des gens qui s'installent à l'île d'Oléron et qui supportent pas qu'il y ait un coq qui chante, oui, c'est quand même hallucinant.
Mais vous, Hélène, vous êtes parisienne.
J'habite à Paris, voilà. Et j'ai un appartement clair, ça c'est une chance.
Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de vous dire j'en ai assez de la pollution à Paris, des canicules parfois extrêmement pénibles, j'ai envie d'aller à la campagne, de recommencer ma vie à la campagne?
Non, c'est vrai que la canicule, j'ai beaucoup de mal avec ça, je déteste ça, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de toits blancs, parce qu'il paraît que maintenant c'est la mode des toits blancs à Paris, et ouais, que pour les trottoirs c'est pareil. Moi j'aimerais bien que la ville de Paris arrose davantage au petit jour, arrose davantage les trottoirs pour faire un peu de fraîcheur et enlever la poussière. Mais sinon, non, moi j'ai jamais eu envie de quitter Paris. Et voilà. En plus, à Paris, c'est marrant, il y a des gens qui ont reconquis leur balcon. Leur balcon servait à rien, à ranger l'escabeau. Et tout à coup, maintenant, ils y ont acheté des fleurs, ils y ont mis du mobilier de camping. Tant mieux, c'est plutôt sympa.
Merci de nous avoir appelé, Hélène. Autre appel, c'est Chloé en Alsace. Bonsoir, Chloé.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne?
Oui, bonsoir à tous.
En direct.
Merci. Je voulais apporter un petit témoignage. J'ai 44 ans, je suis malvoyante de naissance, j'ai perdu plus de 80% de ma rétine et je pourrais jamais conduire de voiture, voilà, mes déplacements sont compliqués. J'ai toujours vécu à Paris jusqu'à l'âge de 37 ans. Paris intramuros, c'était ma ville. Ma ville, ma famille, mes amis, j'adore Paris. C'est vraiment jamais je me serais vue vivre ailleurs. Et moi, c'est une toute autre raison qui m'a fait quitter Paris, c'est une rencontre, c'est l'amour. Et j'ai rencontré quelqu'un qui habitait en Alsace, une petite commune de 5000 habitants. Et j'ai tout quitté, et j'ai bien fait puisqu'il est devenu le papa de ma fille. Et je me suis dit, comment vas-tu toi, parisienne que tu es, malvoyante, t'acclimater à la vie dans une petite bourgade face au champ. D'ailleurs, je vous parle, je suis face au champ, devant mon potager. Mmh. Et il m'a fallu quelques années. Ça n'a pas été facile parce que le changement est radical. Mais voilà, avec un peu de volonté et surtout un cadre de vie extraordinaire. Pour élever un enfant, c'est génial. Et la ville n'est pas si loin, elle est à 25 kilomètres. Et le confinement m'a permis à moi d'ouvrir un peu les yeux, si je puis m'exprimer ainsi, sur... C'est quand même extraordinaire de pouvoir respirer un air non pollué, même si j'ai jamais eu de problème avec Paris et sa pollution, son bruit, son stress. J'ai très bien vécu dans cette ville. Mais voilà, ce confinement, le fait d'être à la campagne, dans sa maison, ça a été une révélation.
Mais Chloé, vous nous avez dit qu'il y a eu quand même une période d'adaptation nécessaire, oui, avec des changements qui n'étaient pas faciles.
Non,
quels
pas
changements,
facile.
Par exemple, quels étaient les changements qui vous ont un peu secoué et troublé?
À 17h, 18h, il n'y a personne dans les rues. On se demande où sont les gens. À Paris, il y a toujours de l'animation. On sort de chez soi, on a tout ce qu'on veut à portée de main. On prend son Vélib, son métro. On peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, à l'opéra, en un claquement de doigts. C'est plus compliqué ici. Et c'est cette effervescence et cette facilité d'accès à tout qui m'a énormément manqué. Je me suis retrouvée un peu comme esselée et un peu coupée du monde. En plus, je ne suis pas autonome dans mes transports. Strasbourg n'est pas très loin de chez moi, mais il n'y a plus de train à partir de 8 heures. Tout est devenu... J'ai vu les choses compliquées pendant un moment. Bon, j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte. Ça fait rester un peu les mamans à la maison. Mais là, je me dis, finalement, est-ce que c'est pas aussi à toi de voir ce que la vie à la campagne peut apporter comme chose bénéfique? On fait le potager, on plante des fleurs, et puis la ville n'est pas si loin que ça. Et c'est hallucinant. Hein. Pour moi, c'est quelque chose de tout nouveau. Et le confinement, je répète, hein, c'est 3 mois passés chez moi en télétravail, ça a été une éclosion. En plus, c'était le printemps, c'était super.
Merci Chloé de nous avoir appelé sur ce récit de Chloé en Alsace qui est très heureuse à la campagne avec son potager, avec ses paysages, même si effectivement quelquefois le soir vers 17h, 18h c'est très très calme dans son village. Magali Talandier?
Oui, une réaction. Ça me fait penser en effet à la question qui était aussi posée en ligne sur les motifs. Pourquoi ces urbains décident un jour de franchir ce cap et s'installer à la campagne? Ce qui est très intéressant, c'est que dans notre histoire hein, de l'humanité, les migrations ont toujours été jusque-là, en principe, guidées par des choix économiques, enfin des choix économiques parfois très contraints, c'est-à-dire devoir vivre ou survivre, et on va vers les zones où on sait que peut-être on aura un avenir meilleur, du travail. Et là, ce qui se passe, en fait, depuis maintenant une vingtaine ou une trentaine d'années, hein, le phénomène n'est pas nouveau, dans ces renversements de tendance où on décide d'aller s'installer justement dans les espaces ruraux, c'est que le premier motif qui arrive en tête, c'est plus le facteur économique, l'emploi, mais c'est le cadre de vie, c'est ce qui vient de nous être dit, c'est un paysage, c'est pas de pollution, c'est un air pur, et les enfants, faire grandir mes enfants dans un environnement favorable, ça c'est des choses qui sont très très fortes dans les témoignages justement de ces motifs. Donc c'est intéressant. Et puis moi, ce que je trouve aussi intéressant, là jusque-là on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'il y aura un appel là-dessus, c'est cette envie aussi d'aspirer à une autre forme de vie, de rapport au monde. Et puis, c'est souvent des jeunes ménages, mais pas que, qui se mettent dans des dynamiques vraiment de transition, hein, de décroissance, et qui choisissent donc une installation à la rurale, également dans le but de s'abstraire un petit peu d'un rythme effréné, de mode de vie. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes parce que ça nous donne, alors si ça devenait quelque chose qui se généralise, encore une fois, je pense que ça serait pas forcément positif, mais regarder ces fenêtres, ces innovations sociales, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui inventent des choses passionnantes dans les espaces ruraux, donc regarder ces initiatives et s'en inspirer pour aussi transformer les villes, ça je trouve que c'est des choses assez intéressantes, quoi.
On va aller en Bourgogne avec Amélie qui est avec nous. Bonsoir Amélie.
Oui, bonsoir, merci. Nous on est en Bourgogne en fait concrètement depuis aujourd'hui. Donc c'est vraiment tout frais, on a déménagé de Paris ce week-end, donc on connaît le village, on est dans un village tout petit de 300 habitants, donc c'est vraiment une grande rupture, mais c'est un village qu'on connaît déjà puisqu'on avait choisi il y a 4 ans à peu près d'acheter une vieille maison dans un village. Et qu'on restaurait tranquillement, et le confinement nous a vraiment permis d'apprécier, enfin voilà, ça confirme tout ce qui a été dit tout à l'heure, mais d'apprécier de vivre à la campagne, dans le silence, de pouvoir redécouvrir les odeurs, de vivre calmement, enfin dans le respect de la nature, avec un autre art de vivre. Et c'est vrai que les enfants, enfin nous aussi on a des enfants, et c'était, ça nous a paru évident en fait de quitter Paris pour aller à la campagne.
Et donc qu'est-ce que vous ne supportiez plus à Paris ?
Ce qu'on supportait plus, c'était vraiment le bruit, le bruit, les odeurs, et puis trop de monde, et aussi la vie trop chère en fait. La vie trop chère pour des appartements qui sont pas forcément aussi agréables par rapport au prix qu'on paye. Et à un moment donné, en fait, on...
Et cette décision, elle est venue pendant le confinement, là où vous vous êtes dit, on va changer de vie.
C'est l'électrochoc. C'est un petit peu avant, mais c'est vrai que le confinement nous a prouvé qu'on pouvait tout à fait s'adapter à la campagne. Après, nous, on est tous les deux on a grandi à la campagne aussi, donc c'est quelque chose qu'on connaît. Mais c'est vrai que je pense qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment faire découvrir ça aussi à nos enfants.
Mais je vous soumets ce courriel qu'on vient de recevoir, Amélie, d'un auditeur. Robert, il nous dit « Le principal moteur des migrations, n'est-ce pas malgré tout l'emploi, avoir un boulot ? Et dans ce domaine, les grandes métropoles restent attractives, plus attractives que les campagnes. Les créations d'emplois, n'est-ce pas avant tout dans les grandes villes ?» Vous-même, Amélie, vous avez retrouvé un emploi ? Comment faites-vous là, en reprenant une nouvelle vie en Bourgogne ?
Ce qui nous a aidé aussi, c'est que mon compagnon, il a pu faire du télétravail et il a réussi à garder le télétravail et aller 2 jours par semaine à Paris. Puisqu'on est en fait, la Bourgogne, c'est pas très loin. C'est très bien desservi en TGV. On est à une heure de Paris en fait en TGV.
Très bien.
Donc c'est vrai que ça a facilité aussi notre choix, et puis ben moi je travaille de chez moi, donc pour moi c'était plus simple. Mais donc voilà, il y a aussi le fait qu'on ait pu discuter avec la direction du travail de mon compagnon, et que tout ça a pu s'organiser correctement.
Très bien, et bien belle nouvelle vie en Bourgogne, Amélie. Dernier appel au téléphone, Sonia, il y en a eu beaucoup ce soir. Thomas dans le Morbihan, bonsoir Thomas.
Oui, bonsoir, merci, et bonjour à tous les invités et aux éditeurs.
Soyez pas trop long, on approche de la fin de l'émission. Votre témoignage, Thomas.
Donc voilà, ancien maire d'une petite commune en Bretagne, je voulais juste faire part des gens qui veulent s'installer en campagne, et on a quelques difficultés des fois, donc il faut bien expliquer aux gens que les services qu'on peut proposer dans les petites communes rurales, qui sont vraiment très faciles à vivre, très agréables à vivre, ne sont pas les mêmes qu'en ville. Et je prends souvent l'exemple des transports en commun, quand vous avez l'habitude de sortir de chez vous, d'avoir un bus, un RER, un métro à 5 minutes, En campagne, ce n'est pas du tout la même chose. Et les nouveaux arrivants ont des fois un peu de mal avec cette situation, comme l'éclairage public qui n'est pas présent dans tous les hameaux, dans tous les bourgs, comme les trottoirs qui ne sont pas présents partout. Et c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation. Et en général, ça se passe bien, mais il faut du temps pour expliquer aux gens que ce temps-là, et quand on n'a pas d'enfants, c'est facile, mais dès qu'on commence à avoir des enfants, les transports en commun, ça devient vite une difficulté. Donc il faut faire très attention quand on emménage en campagne, quand on emménage dans un bourg, de prendre, de faire attention à tout ce qu'on a dans l'environnement tout autour.
Merci Thomas. Magali Talandier, un mot à propos de ce témoignage de Thomas dans le Morbihan?
Oui, beaucoup de choses évidemment n'ont pas pu être abordées parce que cette question touche plein d'autres aspects différents. L'un des aspects, c'est les transports. Beaucoup en effet s'inquiètent aujourd'hui d'une hausse potentielle des déplacements en voiture si on avait en effet ces dynamiques de périurbanisation ou d'extension des villes qui s'amplifiaient. Et là, la question est en effet difficile, c'est-à-dire que alors plein d'expériences hein, d'offres de mobilité à la demande sont mises en place dans les espaces ruraux. Il y a vraiment des choses très très intéressantes, mais à la fois voilà, c'est tellement plus facile, tellement plus rapide parfois de prendre sa voiture que voilà. Donc en tout cas, plutôt se poser la question des conséquences collectives de tous ces choix.
Merci à nos invités au téléphone sonne, Magali Talandier et Eric Charme, téléphone sonne consacré à cet exode urbain que l'on peut voir après ce confinement. Mais c'est pas un phénomène nouveau. J'ai retrouvé une étude de Cadre Emploi en septembre 2017 qui révélait que 8 Franciliens sur 10 seraient prêts à déserter la capitale. Parmi eux, 56% accepteraient même de toucher un salaire inférieur pour s'installer en province. C'était le téléphone sonne. L'émission a été préparée par Pierre de Certaines et Maxime Cochetin, réalisée par Patrick Henry et Philippe Duclos.